Reichslach. C'est ça? Donc il commence au verset 4. Verset 4 du chapitre 32. Non, c'est vrai, c'est simplement dans la page.
Dans la page 64.
Personne n'a entendu.
154.
Oui, mais le chapitre 32 est encore dans la Yétier, mais à partir du chapitre 4, c'est vrai. Bien. Alors, je vais brièvement vous résumer les événements précédents. Et nous allons aborder aujourd'hui un thème particulier qui apparaît dès le début du récit, que je vais d'abord essayer d'expliquer en introduction, parce que c'est un thème qui en lui-même est assez difficile, et nous suivrons ensuite l'exégèse en deuxième pas. C'est-à-dire que je changerai un peu de méthode. Donc, nous nous trouvons au moment où Jacob finit son temps d'exil chez Laban. Ce n'est que au début et à la fin de ce temps d'exil que c'est vraiment un temps d'exil. Je veux dire que les événements qui l'ont obligé à quitter le pays de ses pères pour aller chez Laban, nous avons étudié dans la paracha de la semaine précédente, ces événements étaient vraiment des événements de contrainte, et par conséquent on peut bien parler d'un exil, mais très rapidement il va se lier avec la famille de Laban. Je passe sur les épisodes des différents mariages qui font que pendant 20 ans, Jacob se va installer chez Laban, mais ce n'est qu'à la fin de cette période qu'il se dévoile que c'était vraiment un exil. Je pense que là aussi, nous avons de nouveau un thème très figuratif de ce qu'est l'histoire de la descendance des patriarches, lorsque le peuple d'Israël, en tant que collectivité, connaît aussi ces événements d'exil. Au début, ce sont, comme j'ai dit tout à l'heure, des événements de contrainte, et on expérimente, on ressent la situation d'exil de façon profonde. Ensuite, il y a installation. On pense que ce n'est plus l'exil, on appelle ça la diaspora, d'ailleurs. Et ce n'est que vers la fin de la période qu'il se dévoile que c'est quand même un exil. Et ici, c'est l'événement de, disons, la jalousie, la haine de Laban vis-à-vis de Jacob qui nous est racontée dans les derniers versets de la paracha précédente. Et de nouveau, sur l'initiative des filles de Laban, qui sont les femmes de Jacob, Jacob finalement décide de quitter, de s'enfuir d'ailleurs du pays de Laban. Il est rejoint par Laban, il y a une sorte d'alliance qui se contracte entre eux, et voilà que Jacob revient au pays de Canaan. Ça, c'est pour le tout premier point, le moment des événements où le récit va commencer. À ce moment précis, va revenir à la surface le problème de fond qu'il y avait dans la rivalité Jacob et Ésaü, puisque c'était une des principales causes du fait que Jacob avait dû s'enfuir du pays de Canaan. Et nous voyons que Jacob va mettre en place trois stratégies, je vous donnerai la référence tout à l'heure, trois stratégies pour essayer de résoudre le problème de cette rivalité, de cette haine finalement de Jacob vis-à-vis des Ésaü. Ces trois stratégies, la Gemara, le Talmud les a enseignées comme étant aussi très figuratives de ce qu'on pouvait appeler les stratégies d'aménagement d'Israël dans son histoire de survie, chaque fois qu'il se trouve dans une période d'exil. Et nous savons qu'on peut raconter l'histoire d'Israël de deux manières, soit l'histoire d'une nation entrecoupée de très longtemps d'exil, soit l'histoire d'un très long exil entrecoupé de temps nationaux, ici, si je veux. Ces trois stratégies, c'est d'une part, ce qu'on appelle en hébreu une tentative de pius. Pius, comment traduire ça, je sais pas. L'étipaillère. C'est concilié, mais avec une espèce de amadoué. Amadoué par les cadeaux. Amadoué, on appelle ça aujourd'hui les concessions. Et une espèce de tentative de négociation, d'amadouement, je ne sais pas comment on peut dire, et avec des cadeaux. La deuxième stratégie, c'est la prière. Et la troisième stratégie, c'est de se préparer à faire la guerre si c'est nécessaire. Et vous voyez à quel point ce thème que nous allons rencontrer ici, dès la racine de notre histoire, est préfiguratif des tendances, des mécanismes et donc des stratégies que finalement le peuple juif a connues par à travers sa très longue histoire. En fait, la Gemara nous enseigne que la préparation de ces trois stratégies, je les rappelle, Doron, des cadeaux, Tfil à la prière, Milchama à la guerre si c'est nécessaire, sont simultanées. C'est-à-dire qu'il faut une disponibilité à ces trois stratégies-là simultanément. on sait très bien que finalement on risque de s'habituer à l'une ou l'autre. Et lorsqu'on s'habitue, il y a une sorte de déformation professionnelle, je ne sais pas comment on peut dire, vous comprenez l'idée, une sorte d'habitude qui est prise, et alors on risque de devenir indisponible pour les autres stratégies. Et je pense que c'est suffisamment clair. Par exemple, ceux qui s'habituent à négocier les concessions, finalement finissent par fonder un parti des concessions et ne pensent plus qu'à cela, et deviennent indisponibles, démobilisés pour les autres stratégies. Et ça devient, si vous voulez dire, Dieu préserve, une concession perpétuelle. Mais vous voyez, jusqu'où ça risque de mener. Et puis aussi pour les autres stratégies, ceux qui finalement ne sont mobilisés que pour la prière risquent de ne voir que cela comme stratégie éventuelle. Et puis vous comprenez aussi les conséquences. Je vous signale simplement un épisode jusqu'au temps des Maccabées, puisque nous approchons de Hanouka. Eh bien, la halakha était qu'en aucun cas on ne faisait la guerre le Shabbat. Et alors les ennemis d'Israël ont profité pour massacrer les Juifs le Shabbat. Alors le Beit Din est intervenu pour se défendre, on peut faire la guerre le Shabbat. Et vous voyez jusqu'où ça peut aller lorsqu'on est, disons, sensible, mobilisé à une certaine conduite, on devient finalement aveugle aux autres stratégies nécessaires auxquelles on devrait être disponible simultanément. Et puis en fin de compte, au plus, ceux qui ne pensent que à la stratégie de la guerre pour pouvoir réussir l'histoire d'Israël sont aussi, risquent aussi d'être pris par cette équation. J'essaie de faire une analyse exhaustive du problème, mais il y a là à la fois un problème psychologique important, mais surtout un problème politique grave. C'est que Israël est soumis à une triple interpellation simultanée, parce que, corollairement, l'ennemi d'Israël, ici c'est Ésaü, lui a ses propres stratégies, on va voir qu'il en a une seule, c'est la guerre. Et si on n'est pas disponible à toutes les éventualités, il y a un risque grave. Je pense que ce thème est suffisamment clair. C'est important de voir que lorsque la Torah Shebaalpé, que ce soit le Midrash ou la Gada de la Gemara, intervient pour faire un diagnostic, que s'est-il passé à la racine de notre histoire au temps des patriarches, c'est toujours dans un principe d'enseignement pour l'avenir. Et c'est extraordinaire de voir comment le détail du texte finalement éclaire l'allure des péripéties telles que nous les vivons finalement à l'échelle de l'histoire collective. Il y a une préfiguration à l'échelle de l'histoire personnelle des patriarches qui se retrouve dans le diagnostic de l'histoire à l'échelle collective. Vous retrouvez là le principe que nous suivons depuis le début de cette étude. Kolma Shira la Avot Siman la Banim. Ce qui est arrivé au père est un signe de ce qui arrive au fils, avec cette grande différence que le récit met en jeu des personnages à l'échelle individuelle. Et on risque d'être trompé de croire que c'est une histoire qui se referme sur elle-même, et qu'il n'y a là qu'un modèle apologétique, plutôt herméneutique, mais dans le sens de l'enseignement, il n'y a que les mots techniques qui me viennent à l'esprit, de l'enseignement type abstrait, coupé de la réalité de l'histoire, de la morale pour elle-même, de la contemplation de la stratégie morale, alors qu'en réalité, l'objectif, d'une part, de la révélation de ces textes au niveau de la Torah, et surtout de leur parchamut, de leur explicitation par la tradition orale, c'est de nous faire comprendre l'histoire et pas seulement l'idéal. Je ne sais pas si les mots que j'ai employés sont suffisamment précis, mais vous comprenez le problème. Je me souviens d'un temps où on avait l'habitude de traiter de ces modèles historiques uniquement comme exemplarité de vertu morale à l'échelle individuelle. Je donne un exemple qui est peut-être plus clair. Lorsqu'on traitait de l'histoire de la rivalité entre Joseph et ses frères, on y arrivera dans quelques chapitres, alors la conclusion était toujours de mettre en évidence l'importance de l'amour fraternel, l'importance pour les parents de ne pas faire de différence entre les enfants, ce qui risquerait de déclencher des jalousies, et avec des conclusions qui prenaient une portée hypertrophiée, et on n'arrive pas toujours à comprendre comment les principes menaient à la conclusion, d'autant plus que, voilà un exemple qui me paraît suffisamment clair, voilà ce qui est arrivé, parce que les frères de Joseph ont vendu Joseph, finalement l'exil d'Égypte a commencé. Alors imaginez, 210 ans d'esclavage en Égypte pour un peuple tout entier, parce qu'il s'était passé une petite histoire individuelle à l'échelle familiale. Et puis, on s'était habitué finalement à cette herméneutique-là. Est-ce que les mots sont suffisamment clairs? Et alors que la portée du texte est bien, bien plus importante, c'est d'éclairer l'histoire concrète de la nation d'Israël en tant que nation, telle qu'elle se trouve préfigurée au niveau de ce qu'on appellerait la geste des patriarches. Et par exemple, le premier thème qui nous était apparu dans une période d'exil, voilà le scénario. Au début, les Juifs expérimentent existentiellement qu'il s'agit bien d'un exil. Ensuite, on s'installe, on s'habitue, symbiose, et puis ça dure le temps que ça dure. Et finalement, la même péripétie, l'antisémitisme de l'oncle qui était le beau-père, situation privilégiée pour Laban dans son exil, l'oncle qui est le beau-père, celui, le goy de Jacob. Eh bien, que déclenche cet antisémitisme de fin d'exil? Là aussi, si vous voulez, nous verrons de façon très claire cet enseignement de type préfiguratif. Il faut toujours manier la typologie avec beaucoup de précaution, c'est une science pour elle-même, mais c'est précisément cela la science de la parchamine, c'est ça la science du Midrash. Être capable de diagnostiquer dans le détail l'événement du récit au niveau des patriarches, mais en lui donnant un éclairage qui sert à la postérité des patriarches dans leur histoire. D'ailleurs, vous rappelez, on a approfondi ce problème, que finalement cette lecture a deux versants. D'une part, lorsqu'on arrive à comprendre l'événement lorsqu'il arrive, ça éclaire ce que le texte avait dit. Et inversement, si on comprend bien ce que le texte a dit, ça nous permet de comprendre l'événement lorsqu'il arrive. Le thème que nous utiliserons là, je préfère, du point de vue de la méthode, pour gagner du temps, l'expliquer pour lui-même avant de le voir à travers le texte. Habituellement, j'emploie la méthode inverse, mais je pense que cette fois-ci, ça vaut la peine de prendre au moins un quart d'heure pour essayer d'élucider le thème lui-même. C'est le problème de la relation à autrui, lorsque l'autrui est l'adversaire, à l'intérieur de la cohérence du monothéisme. Voilà les données du coup. De la cohérence du monothéisme. C'est-à-dire, il faut faire un effort pour essayer de comprendre les implications du monothéisme dans le problème de la relation des sujets dans l'histoire. Le fait de dire que Dieu est un, ça veut dire qu'il est, simultanément, bien sûr, le créateur, créateur et providence aussi de l'autre, même et surtout lorsque l'autre est l'adversaire. C'est-à-dire, la tentation serait, en ce qui concerne l'histoire d'Israël, de croire que Dieu, comme providence, n'est préoccupé que des intérêts de son serviteur Israël, et que par définition, il est du côté face, enfin contre, celui qui est l'autre Israël, c'est-à-dire l'adversaire érigé en rivalité. Mais à l'intérieur d'un monothéisme absolu, comme est le monothéisme hébraïque, il est évident que c'est le même Dieu unique qui est derrière moi, Israël, mais aussi derrière l'autre, l'enfant d'Israël. Il faut faire un effort très profond, pas d'imagination, plus que ça, d'approfondissement spirituel, pour arriver à comprendre ce qui va nous être raconté dans cette perspective-là. Or, nous avons dans cette rencontre entre Jacob et Ésaü un exemple privilégié de ce thème-là. C'est-à-dire, Jacob, le descendant de Jacob, lisant l'histoire de Jacob, risquerait de lire le texte, de l'étudier, de le comprendre, avec comme postulat que le Dieu dont il est parlé ne protège que les intérêts de Jacob, qui est le héros du texte, mis à l'indice de ce Dieu unique dont il est parlé dans le récit biblique. On risque d'oublier ce principe que je viens de signaler tout à l'heure, qui est d'ailleurs inscrit dans le chat même, dans la lecture directe du verset de base du problème de la relation à autrui, qui en hébreu est « Ve'ahavta et Hashem, c'est-à-dire « Ve'ahavta le'acha kamocha, ani Hashem elokecha ». On a tendance à oublier la fin du verset. « Ve'ahavta le'acha kamocha », ici, la situation de Ésaü face à Jacob n'est pas celle du réel, du prochain, elle est celle vraiment de l'adversaire, de l'approximation érigée en rivalité. Il n'y a pas de rivalité plus terrible que la rivalité du proche, qui n'est que proche, que proche. Il y a proximité, mais il n'y a que approximation. Et là, nous sommes aidés par l'étymologie française elle-même. Lorsqu'il y a grande différence, lorsqu'il y a éloignement d'identité, les rivalités, les conflits sont pas difficiles à résoudre. C'est l'un ou l'autre. Tandis que là, c'est très ambigu. Ici, c'est l'autre qui se prend pour l'un. Dans le personnage d'Ésaü. Et c'est l'autre qui était le plus proche de l'un. Mais seulement, voilà, il n'était que proche. Et l'image mathématique qui me revient toujours dans ces définitions, c'est l'image de la syntope. Vous voyez, la courbe qui s'approche le plus possible d'une coordonnée, mais qui n'arrive jamais à la rejoindre. Et bien voilà, Ésaü est asymptote de l'identité d'Israël. Et alors, cette asymptotification, je ne sais pas comment dire, cet asymptotisme-là, c'est la source de la plus grande haine. Parce que c'est le plus proche dont la rivalité est la plus terrible. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? C'est pourquoi d'ailleurs, la Torah dit tranquillement, elle utilise cette traduction, bien qu'elle ne soit pas très précise, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Réharcèle pas le prochain dans le sens trop littéraire du terme. Mais ça fait rien. Admettons cette traduction. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, il n'y a qu'à d'avoir un commandement. Parce que pour le lointain, c'est facile d'aimer le lointain. Le risque auquel vient répondre cette ligne droite concerne bien le prochain. Et vous voyez à quoi il faut rattacher ça, à cette espèce de pudeur inutile des lecteurs juifs de la Bible, essayant véhémentement de se justifier en disant non, c'est le lointain dont on parle. C'est tout le contraire, on parle du prochain. Vous comprenez ce que je veux dire? Le risque d'accusation de, comment on appelle ça, chauvinisme, ancien sloveno. Pas du tout. S'il y a cas de nécessité d'un commandement d'amour de l'autre, c'est précisément dans le cas limite du prochain que ce commandement est le plus nécessaire. D'une autre manière, si vous voulez, la haine des frères, c'est la haine la plus terrible. Surtout quand c'est un frère jumeau. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et là, ceci se rattache, je ne sais pas, au schéma général que nous avons eu, je ne sais pas si c'est au début de l'année ou au début de l'année dernière, c'est qu'à chaque étape de l'engendrement d'Israël au niveau de l'histoire des patriarches, nous avons toujours une approximation de l'identité d'Israël en engendrement qui s'érige en rivalité. Parce qu'elle est entrée dans cette impasse, elle s'est fixée dans cette impasse d'approximation, alors elle s'érige comme telle en rivalité terrible d'Israël. Je vous les signale très rapidement pour l'essentiel de notre sujet. Au niveau des enfants d'Abraham, comme on a l'habitude de dire, eh bien, l'approximation d'identité qui s'instaure en rivalité de Isaac, c'est Ishmaël. Et au niveau de Jacob, qui recevra le nom d'Israël, l'approximation d'identité qui s'installe en rivalité, c'est Ésaü. Et là. Là, je vais vous demander quand même de revenir un peu en arrière. Nous allons lire l'explication du Midrash sur le nom de Ésaü. Je vais donner au début de Toldot. C'est au chapitre. Au chapitre 25, café. C'est pas du café, mais c'est pas du café. Je veux dire à quel verset. Nahon, verset 25 du chapitre 25. Par Maïm Café. Voilà. Vous avez le verset? Donnez la page, quelqu'un. 115. Page 115, vous avez le verset 25 du chapitre 25. Voilà. Vayetse Arishon Admoni est le premier qui est né de la gestation de Rivka, leur mère, est sorti Admoni, on ne va pas traduire rouge, disons roux, oui. Kulo qui a des retsea, tout entier comme revêtu d'une cuirasse de poil, mais c'est pas joli poil. Enfin, velu, je ne sais pas comment dire. Vaikre ou Shemo Esav, et ils nommèrent son nom Esav. Le Midrash dit ils nommèrent qui tout le monde, quiconque le voyait, l'appelait oh, Esav. Alors que pour Jacob, on dira il le nomma Yaakov, et qui le nomma Yaakov, c'est Dieu qui le nomma Yaakov. Bon, je referme cette parenthèse, regardez ce que dit Rashi à propos de Vaikre ou Shemo Esav. Vous y êtes, Rachid? À Kol Karuloke, tout le monde l'appelait ainsi. Quiconque le voyait l'appelait ainsi. Et on verra ce que représente ce diagnostic d'identité, unanime. Les fiches Aya Nahasa Venigmar de Seharo Keben Shani Marbe. Parce qu'il était déjà accompli, fait, Nahasa, Venigmar et achevé, de Seharo, dans sa chevelure, et il faudrait dire dans sa poilure, mais enfin, ça n'existe pas. Keben Shani Marbe comme un enfant beaucoup, beaucoup âgé. Et retenez le mot Kvarnarasa. Le mot de Esav, qui est interprété, Esav c'est Aïn Shin Vav, mais parfois écrit comme ça, Esav, Aïn Shin Yud Vav. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est important de le savoir. Et il est interprété comme si c'était le mot Asui, déjà fait. Alors, je vais analyser. Vous me suivez? Astou. Déjà accompli, déjà fait. C'est-à-dire le fait qu'il y a là une tentative d'identité qui, à un certain moment, est immédiatement réalisée, figée dans son approximation de viser de l'avenir, mais figée. Astou, c'est déjà fait. Et après, ça fait des petits. Après, ça s'installe dans l'histoire. Il n'y a plus d'histoire. Il y a une durée spécifique. Mais déjà, dès que c'est installé dans sa perfection figée, alors on sait que c'est déjà fini. Même si ça dure 2000 ans, l'histoire de Rome, dès le début, on savait qu'elle était caduque. Pas caduque, on dit oui, caduque, dans le sens de... Et alors que Jacob porte en lui une dimension d'éternité. Et le fait d'avoir figé l'approximation, c'est il n'y a plus d'avenir. Est-ce que c'est suffisamment clair? Bon. Vous retrouvez d'ailleurs dans les lettres, là, exactement les lettres du nom que cette civilisation-là, issue des Ahus, devenue l'Empire romain, a finalement, dans sa religion propre, donné à celui qu'elle croit être son messie. Vous voyez? C'est exactement les mêmes lettres. On ne lit pas ces noms-là, mais je vous les lis bien. Bien. Là, il y a donc cette espèce de, on va voir, de, comment dire, de colère, frustration qui mène à la colère, à la rancœur, à la mélancolie, tout ensemble, qui sont les marquivimes, les facteurs de l'émotion antisémitisme. Et on l'avait trouvé déjà la première fois dans les récits bibliques, avec Caïn par rapport à Abel. Et Caïn aussi a un nom qui renvoie à la même idée. Caïn, c'est déjà canouille. C'est-à-dire celui qui se ressent comme déjà acquis. À un autre niveau du même problème. Ici, Esav, celui qui se conçoit comme déjà fait. Alors que Jacob porte en lui l'avenir. Et tout dans la civilisation de Esav, et en particulier dans ce que deviendra la messianité usurpée de la tradition romaine, eh bien, est à cet indice du passé déjà révolu. Le Messie est déjà venu. Ça fait. Vous avez compris. Ils sont à l'indice du quête déjà accompli. Très rapidement, pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous voyez, vous connaissez cette tradition, Yaakov Avinu l'Omet. Okay. Et, bon, peut-être j'explique en français, même si ça prend un peu de temps, ça vaut la peine. Je veux dire, on voit dans les versets qui nous disent la mort des patriarches, il y a toujours trois termes, dont Vayamot et il mourut. Mais pour Jacob, il n'y a que deux termes, il n'y a pas Vayamot, il n'y a pas il mourut. Il y a il expira, il cessa de vivre, tout ce que vous voudrez, mais il n'y a pas il mourut, il n'y a pas Vayamot. Hein? Vaïchi, ça fait quand il était encore vivant. Non, mais au moment de sa mort, on nous dit Vaïgva, il expira, Vaïa sefer amav, mais il n'y a pas Vayamot. Il n'y a pas il mourut. Alors le Midrash tranquillement nous dit Jacob avait nous l'omet, Jacob notre père n'est pas mort. Ce même Midrash va objecter à lui-même, mais comment, on l'a embaumé, on l'a enterré. Il dit non, mais il n'y a pas écrit qu'il est mort. Et qu'est-ce que ça veut dire? D'une certaine manière, je peux le formuler autrement aussi. C'est-à-dire, le cycle de l'identité d'Abraham est accompli. Le cycle de l'identité d'Isaac est accompli. Mais le troisième moment, ce cycle de l'identité Jacob, avec ce méta, cette tension entre le nom Jacob Israël qu'il ne reçoit qu'à la fin, celui-là n'est pas encore accompli, donc il est encore vivant. Et alors, le Midrash explique qu'il n'y a pas Vayamot. Et il ne faut pas le prendre, on pourrait le prendre aussi, mais ce serait trop élémentaire. Puisque ses descendants vivent encore, il est donc encore vivant. Ça, c'est de la littérature, c'est de la poésie. Okay? C'est vrai, c'est joli, mais ce n'est pas ça. Parce que les descendants d'Isaac aussi, c'est les mêmes, sont encore vivants, et ses frères ne s'adoptent pas, ne concernent pas Isaac, ceux d'Abraham. Vous comprenez? Il y a autre chose. Ça veut dire que il y a dans l'identité de Jacob une dimension de vie éternelle à opposer à la conception perpétuelle, c'est-à-dire, qu'il faut diagnostiquer. Eh bien, Israël tient de Jacob cette dimension de couleur high. Il est tout entier vivant. Voilà ce que je voulais vous montrer. Le père de ces deux enfants, un qui est Ésaü et l'autre qui est Yaakov, s'appelle Yitzhak. Alors, le Zohar montre que les lettres du mot de Yitzhak forment deux mots différents. Ket, le mot que vous avez écrit, c'est la fin. Ket et Chai, c'est vivant. Vous voyez, dans Yitzhak, il y a un chinour de Ket et de Chai. Est-ce que c'est clair? Je vais revenir là-dessus, mais pour essayer d'identifier un peu l'identité Yitzhak, vous voyez, tout se passe comme s'il a donné tout Ket à Ésaü et tout Chai à Jacob. Par conséquent, Yaakov Avinu l'omet. Vous avez compris? Et effectivement, ce qui descend d'Ésaü n'existe qu'à l'indice d'une fin déjà arrivée. Et c'est comme ça qu'est leur messianité. Vous avez compris pour eux? Alors qu'il y a dans l'identité de Jacob une dimension de Chai insondable. Je ne sais pas si c'est par hasard qu'un bijoutier a inventé un bijou qui s'appelle Chai. ça a dû sortir des Justiniens encore. Non. Mais c'était le 18e anniversaire des années 13, je me rappelle. Enfin, c'est un peu ça. Je crois que c'est aussi significatif, ce symbole haï, que le Magen David lui-même. Si les bijoutiers savaient ça, mais on ne sait pas qu'on s'est fait. Et pour revenir là, vous voyez, c'est dialectique entre la fin et la vie, Isaac la porte en lui. Il devait pas naître, il est né quand même. Il devait mourir, il n'est pas mort. Oui, il expérimente une identité très 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 particulière et qui s'appelle Yitzhak. Alors, elle se déploie dans sa descendance. Esaü emporte avec lui tout Ketz, il est le modèle de Ketz. Talou, Oto, Ala Ketz, comme Haman. Et puis, Jacob emporte avec lui Chai. C'est pourquoi, quand nous arrivons à la prochaine Vayhi, d'accord, lorsque Jacob veut prédire le Ketz dans sa descendance, il ne le trouve pas. Vous vous rappelez ce Midrash de Sitrachi? On y arrivera d'ailleurs à la bracha de Vayhi. C'est en tant que nous sommes quand même les filles d'Yitzhak qu'il y a un Ketz possible. Mais en tant que nous sommes les filles de Yaakov, il n'y a pas de Ketz possible. De Yaakov, il y a un Daha, on dit une pulsion, qui n'a pas d'insondable. Si vous percevez le psychisme juif, vous voyez cette espèce de mouvement perpétuel d'aller toujours en avant qui n'a pas de fin. Qui porte en lui quelque chose que peut-être aucune civilisation n'arrive même à pressentir. Et je vous les choses à la limite. Réfléchissons très très sérieusement. En tant que fils de Jacob, après je reviens à fils d'Isaac, oui, quand même, grâce à Dieu, il y a une fin de l'exil. Il s'agit de la fin de l'exil. La première fonction du Messie attendu, c'est de mettre fin à l'exil. Et il a d'autres fonctions, mais la première, c'est celle-là. Et alors, quand un juif dit qu'il attend le Messie, vraiment, 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 est-ce que c'est vrai? D'abord, c'est pas vrai, puisque c'est le Messie qui l'attend. Bon, c'est un autre problème. Mais, vous voyez, est-ce qu'il y a sincérité totale dans cette espèce de ferveur de l'attente du Messie? Il n'y a qu'à le confronter à l'Eshana Ababel ou Shalayim, l'Eshana Ababel ou Shalayim. L'année prochaine, encore, plus. Okay? Vous voyez, ça, c'est la force qui vient de Jacob. Encore une fois, en tant que fils de Jacob, on ne voit pas le Ketz. Si on voit le Ketz, c'est en tant que fils d'Yitzhak. Et c'est clair. Et je vous donnais différentes références sur ce dernier point. Le fait qu'effectivement, au moment de la sortie d'Égypte, les sources sont claires, et en particulier, c'est à Michelin Lavera de Pessah, chez Akadosh Baruch Hu, Chichev et Taket, que le moment de la fin de l'exil d'Égypte a été calculé à partir du point de départ pris au moment de la naissance d'Isaac. Vous vous rappelez de ça? Est-ce que c'est clair? Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est une première référence. C'est grâce au mérite d'Isaac que la fin de l'exil d'Égypte a pu être fixée. S'il ne s'agissait que de l'identité de Jacob, il n'y a pas de fin. Est-ce que c'est clair? Et lorsque Jacob veut prédire la fin, lit ses yeux sur ce que tu dis, voilà. En tant que fils de Jacob, nous ne portons pas en nous l'exigence eschatologique. Et revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vrai que les Juifs attendent le Messie. Bien. Et c'est vrai que chaque fois qu'on leur a présenté une maquette, ils ont dit non. Bien. C'est vrai. Mais à force de dire non aux maquettes, on risque de dire non au sionisme pour accomplir le raisonnement. C'est ce qui est arrivé à ceux qui attendent le Messie. Bon, alors, ceux qui attendent le Messie, qu'est-ce qu'ils attendent? Vous comprenez? Est-ce que c'est clair? Ils savent même pas eux-mêmes. Donc, alors, très souvent, on me dit, mais mon rabbin là-bas m'a dit que... mais qu'est-ce qu'il t'a dit exactement? Est-ce qu'il t'a cité un texte? Où c'est écrit? Quoi? De quoi il s'agit? Alors la réaction est toujours une réaction hypothétique. Mais puisque c'est un rabbin, il doit savoir. Vous avez compris le problème? Donc, non, je veux dire qu'on peut diagnostiquer ça. Y a-t-il vraiment une sincérité absolue au niveau fils de Jacob dans cette formule, j'attends la fin, puisqu'il n'y a pas de fin? Bon, voilà, c'est le premier éclairage que je vous donnais. En tant que fils de Yitzhak, oui, grâce au mérite de Yitzhak. Et ce mérite de Yitzhak, c'est que c'est le seul des trois patriarches qui n'a jamais quitté le pays d'Israël. C'est la raison pour laquelle c'est son mérite qui joue pour mettre fin à l'exil. Nous pouvons témoigner que nous sommes les enfants de ce pays grâce à Isaac, plus que grâce à Abraham ou que grâce à Jacob. Vous avez compris le... Donc en tant que fils d'Isaac, nous avons une zika sur le pays. En tant que fils de Jacob, eh bien, la fille de Laban se trouve là où elle se trouve. Des fois, elle est à Brooklyn. Bon. Quelle était ta question que je me l'avais
demandé? Moi, je suppose aussi que je n'avais pas bien à dire, c'est que Jacob pourrait aussi augmenter l'interaction sur le fait que si la fin de l'exil arrive, c'est grâce à notre espace. Et comment se dit que, et Jacob, on ne voit pas l'exil, mais Israël.
Oui. Ah oui. Parce que les deux niveaux, Jacob et Israël, sont très différents. Et tous les textes qui parlent de cela, par exemple le texte de Raïfi, nomment Jacob. Jacob, c'est la dimension Israël dans l'exil. Bien entendu, que, qu'est-ce que c'est que ce Jacob en tant que fils d'Isaac? Il s'appelle Israël, celui-là. D'ailleurs, c'est quand Jacob revient en Israël qu'il s'appelle Israël. D'ailleurs, on va y arriver tout de suite, par un autre biais. Ken?
Est-ce qu'on peut dire que Yitzhak, est-ce qu'il a la synthèse de Kerk de Chaïm?
Oh, c'est plus qu'une synthèse, vous voyez, c'est une tension intérieure perpétuelle. L'identification de l'identité de Yitzhak est un thème pour lui-même très important dans le Zohar. Mais j'ai simplement essayé de vous montrer qu'il y a deux forces radicalement contradictoires et qui n'arrivent pas à s'annuler, d'ailleurs. Yitzhak est tout entier, Ken, c'est tout entier, Chaïm, il y a un chimie. Alors, quelle est ta question?
Yitzhak, c'est un futur. Ça pourrait être un présent continu.
Hein?
Un présent continu.
Oui, oui, bien sûr. Ça veut dire qu'il n'y a que cette force du futur qui fait que le présent puisse être continu, comme dans le sens que tu dis. C'est-à-dire que Yitzhak, par son côté Chaï, et c'est ça le côté futur, bien sûr, ne peut pas s'arrêter là où Esaü s'arrête. Bien. Je ne sais plus pourquoi je vous ai parlé de ça. Oui, pour l'identification du nom de Esav en tant que approximation d'identité qui se fige. Et de là viennent les rivalités les plus terribles. Alors, je reprends donc le thème d'introduction, pour qu'il est suffisamment clair pour tout le monde. Lorsque Jacob va rencontrer Esaü, il a peur. Pourquoi il a peur? Pas parce qu'il a peur d'Esaü. Il a peur parce qu'il sait très bien que derrière Esaü, c'est le Dieu unique qui l'interpelle. C'est le Dieu unique qui, d'une certaine manière, a aussi le dossier d'Esaü à plaider. Vous voyez la difficulté de la confrontation d'Israël avec ses adversaires. Ses adversaires n'ont pas la même problématique. Ils ont leur Dieu derrière eux et qui s'occupent que d'eux. Donc ils ont une ferveur d'engagement islamique, je ne sais pas comment vous dire, puisqu'on parle du temps contemporain, suicidaire. Aucune allusion à ce qui se passe actuellement. Je signale d'ailleurs en passant, j'ai appris d'après hier, qu'une énorme catastrophe a été évitée à Jérusalem, et je vais vous la raconter, mais la police a jugé, que le gouvernement a jugé qu'il ne fallait pas affoler les populations, il les a affolés un peu. Du côté de Giv'at Shaoul, vous voyez, c'est pas loin. Un autobus qui frôlait un rabbin. Il y a un arabe qui s'est jeté sur un arabe d'Agavi, qui s'est jeté sur le chauffeur et qui a voulu tourner le volant pour jeter l'autobus, lui y compris, dans le rabbin. Bon, il y avait un soldat qui a arrangé l'histoire, et on a trouvé dans sa poche une photo de Khomeini. Vous voyez à quoi je fais ça. Méfiez-vous des chauffeurs d'autobus. Alors, ça veut dire que il y a un comportement anthropologique radicalement différent. Le Dieu unique que j'ai derrière moi, c'est l'adversaire qui parle, ne s'occupe que de moi. Il est anti-juif. Tandis que le Dieu unique de Jacob n'est pas anti-Esaü, c'est aussi sa créature. Est-ce que vous avez compris le problème? Bon, donc je reviens. Vous comprenez que dans cette problématique, les juifs sont à part. Parce que leur monothéisme est cohérent. Est-ce que c'est clair? Et oui, à quel point ça risque de s'hypertrophier. Très souvent chez les juifs, on trouve cette espèce de comportement qui consiste à dire, puisque l'autre c'est l'autre, et pas moi, en tant que tel, peut-être qu'il a plus raison que moi, puisqu'il est l'autre, stam, ça suffit. Okay? Vous avez compris? C'est-à-dire de donner raison à l'autre uniquement parce que c'est l'autre. Et c'est une caractéristique du comportement de la galoute, galoutique, du juif de galoute. Israël n'est pas comme ça. Jacob est dans ce problème. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire un Israélien ne se comporte pas comme ça. Et vous allez me dire, mais il y a beaucoup d'Israéliens qui se comportent comme ça. Ce sont des juifs galoutiques, déguisés en Israéliens. Je pense que c'est suffisamment bon. Alors on revient au problème. Nous allons voir toute cette stratégie du juif galoutique qui se met en place. Par exemple, lorsque Jacob, je ne sais pas si on y arrive ce soir, va se prosterner devant Esaü. Il y a un mot très précis pour dire cela. C'est la... je ne sais plus comment c'est. Bon, je ne sais pas comment, je vais vous décrire. Ça ne me sort pas de la gorge. Je vais vous décrire ça. C'est un peu la politique aérienne, genre congrès juif mondial, pour essayer d'amadouer les goïms lorsqu'on se...
Stadlanout.
Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez une réunion entre Nahum Goldman, que Dieu ait son âme, et Kreisky Kinlevitz. un peu ça, c'est Courbette. Alors que c'est quand Jacob va se redresser qu'il se rappellera Israël. Okay. Là, il y a Jacob le Michaud. Et. Top. Alors, j'ai vu. On va tout de suite être prévenu d'un double langage, d'un double régime du langage. Nous allons dire très attentivement. Et je vais arriver à un des points qui mérite, je pense, d'être un peu approfondi. Vaishlach Yaakov Malachim Nefanav. Et Jacob envoya des envoyés devant lui. Et là, Esav arrive à Esaü, son frère, Arsa Seir, en direction de la terre de Seir, du pays de Seir, Zedom, du champ de Edom. Vous êtes tout de suite frappé par la répétition de termes dans tous les moments du verset. Et on va les reprendre. Vaishlach Yaakov Malachim Nefanav. Nefanav redouble Malachim. S'il envoie des envoyés, c'est bien devant lui. C'est clair? Et là, Esav arrive. Esaü, c'est son frère. Le Midrash va intervenir pour chaque unité de lecture, pour l'expliquer pour elle-même. Il envoie à son frère, mais il trouve Esaü. Arsa Seir Zedom, c'est encore apparemment une répétition. Alors, un des principes de l'exégèse du Zohar de ce texte, c'est que dans le même comportement et dans le même dire, il y a deux portées. Simultanément, Jacob s'adresse à Esaü et en même temps au Dieu unique, providence d'Esaü. C'est-à-dire, on va appeler ça en langage traditionnel le star d'Esaü, la volonté de Dieu pour Esaü. J'ouvre une parenthèse avant d'aller plus loin. Vous voyez comment nous allons lire le texte. Une parenthèse. Dans la Gemara, on enseigne que lorsque Moïse est monté au Sinaï pour recevoir la Torah, il a demandé un certain nombre de conditions avant de recevoir la Torah. Une de ces conditions, c'est qu'il n'y ait plus de prophétie chez les goïms. Et c'est un texte qui intrigue beaucoup les commentateurs. D'après le principe suivant, si tu as reçu un cadeau, tu n'as pas le droit, c'est pas joli, je ne sais pas comment dire, c'est lo haïn yafa, de ne pas vouloir que l'autre aussi ait le même cadeau. C'est-à-dire que ce cadeau n'aurait de plus pour toi que si tu es seul à l'avoir. Je crois qu'il y a toute une théorie économique qui est basée sur ce principe. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Le fait de la richesse relative. C'est-à-dire, si l'autre est aussi riche que moi, je me sens pauvre. Vous avez compris un peu le mécanisme. Et alors, nous aurions ici Moïse qui aurait le même comportement. Il dirait à Dieu, nous allons recevoir la Torah, mais entre autres, à une condition, ne donne pas la prophétie au Goïm. Ne donne plus la prophétie au Goïm. On sait d'ailleurs qu'effectivement, jusqu'à ce temps de l'histoire, dans tous les peuples, il y avait des prophètes qui étaient capables, comme en Israël, d'éclairer son propre peuple sur le sens de son histoire d'après le Dieu. Je veux dire, nous avons, nous, la prophétie qui éclaire le sens de l'histoire d'Israël d'après la prophétie biblique. Mais il ne faut pas croire que seule l'histoire d'Israël a un sens biblique. Je ne sais pas comment on va dire ça. A un sens prophétique. A un sens d'après la prophétie. C'est moi qui vais dire. Bon. Ça doit être un chien. Ça va mieux. Et là, ça veut dire les autres peuples aussi, leur histoire est sous le regard de Dieu. De toutes les façons, nous sommes dans le monothéisme absolu. Par conséquent, il y a un sens biblique à l'histoire du peuple d'Ésaü, à l'histoire du peuple d'Ishmaël, à l'histoire de tous les peuples. Et il y a eu un temps où tous les peuples avaient leur prophète particulier qui savait leur expliquer le sens, je ne vais pas dire religieux, c'est plus profond que ça, leur sens prophétique. Le sens prophétique de leur propre histoire. Et c'est ça que Moïse demande, que ça s'arrête ailleurs, qu'il n'y ait plus de prophètes capables d'expliquer aux autres peuples le sens prophétique de leur histoire. Et effectivement, nous savons qu'historiquement, c'est arrivé. Le dernier étant à cette génération-là, qui était Bilham, qui non seulement était le prophète d'un peuple particulier qui était Midian, mais qui avait cette prérogative d'être le porte-parole de la revendication de l'ONU de ce temps-là, je veux dire toutes les nations à la fois contre Israël. Bilham, le prophète des nations. Et c'est pourquoi il a été l'antagoniste de Moïse. Un peu en termes de réalité contemporaine, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler le porte-parole de l'ONU lorsqu'il formule la propagande anti-israélienne. Ça, c'est Bilham. il se fait le porte-parole de la revendication de l'ensemble des nations contre Israël. Est-ce que c'est vrai? Vous savez à quel point la propagande, ça peut être efficace. Rappelez-vous ce qui s'est passé l'année dernière en France ou ailleurs. Moi, je me souviens de la propagande lorsqu'elle a commencé à devenir une science politique, au temps de Goebbels, au temps des nazis, et où, finalement, les nazis avaient réussi à persuader le monde civilisé tout entier que puisqu'il s'agissait des juifs, eh bien, c'est un cas à part. Juif égale diable. Et quelles que soient toutes les exceptions héroïques qu'il y a eu de goïms qui ont essayé de sauver les juifs, il n'y a pas doute qu'on a vécu en ce temps-là une atmosphère où ces mensonges qui arrivaient à faire dire le contraire des réalités réussissaient. L'atmosphère était comme ça. Ça allait de soi que, vous savez, il y a, je pense, un mécanisme d'antisémitisme qui va dans ce sens. Ils souffrent tellement que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas une raison. Donc il y a une raison, donc ils ont raison. Okay. Vous voyez comment ça marche. Hein. Eh bien, comment expliquer cela? Je pense qu'on peut l'expliquer de cette manière. Moïse est chargé de transmettre la Torah à Israël. Ça veut dire qu'Israël va être jugé d'après la Torah, une fois la Torah révélée. Ça veut dire qu'Israël va être cette seule nation qui accepte que son histoire soit jugée par la charte que représente la Torah. Les autres nations, non. Mais Israël sait que, et Moïse se fait le porte-parole de ce point, Israël sait qu'il va entrer dans une histoire où il va être environné de rivalité et de contestation. Alors si déjà, je vais faire le raisonnement a posteriori, si déjà l'interpellation contre Israël, alors que les nations ne connaissent même pas le véritable sens de leur dossier, le sens prophétique de leur propre dossier, est si terrible pour le peuple juif, 77 fois à plus forte raison, dira le Midrash, s'ils avaient leur prophète. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire ? Déjà, sans savoir quel est leur véritable droit, entre guillemets, contre Israël, c'est tellement dur pour le peuple juif. Alors, s'ils connaissaient la lecture biblique de leur propre histoire, ça serait impossible. C'est clair ? C'est ce qui explique ce que Moïse demande. D'accord pour la Torah. Même condition, arrête la...